Germaine de Staël, Delphine. Lettre première. Madame d'Albémare à Mathilde de Vernon. Bellerive, ce 12 avril 1790. Je serais trop heureuse, ma chère cousine, si je puis contribuer à votre mariage avec monsieur de Mondeville. Les liens du sang qui nous unissent me donnent le droit de vous servir et je le réclame avec instance. Si je mourrais, vous succéderiez naturellement à la moitié de ma fortune. Me serait-il refusé de disposer d'une portion de mes biens pendant ma vie, comme les lois en disposeraient après ma mort? À 21 ans, convenez qu'il serait ridicule d'offrir mon héritage à vous qui en avez 18. Je vous parle donc des droits de succession seulement pour vous faire sentir que vous ne pouvez considérer le don de la terre d'Andely comme un service embarrassant à recevoir et dont votre délicatesse doive s'alarmer. Monsieur d'Albémare m'a comblé de tant de biens en mourant que j'éprouverai le besoin d'y associer une personne de sa famille quand cette personne, ma compagne depuis 3 ans, ne serait pas la fille de Madame de Vernon, de la dame du monde dont l'esprit et les manières m'attachent et me captivent le plus. Vous savez que la sœur de mon mari, Louise d'Albémare, est mon amie intime. Elle a confirmé avec joie les dons que M. d'Albémare m'avait faits. Retirée dans un couvent à Montpellier, ses goûts sont plus que satisfaits par la fortune qu'elle possède. Je suis donc libre, et parfaitement libre, de vous assurer 20 000 livres de rente, et je le fais avec un sentiment de bonheur que vous ne voudrez pas me ravir. En vous donnant la terre d'Andely, il me restera encore 50 000 livres de revenus. J'ai presque honte d'avoir l'air de la générosité quand je ne dérange en rien les habitudes de ma vie. Ce sont ces habitudes qui rendent la fortune nécessaire. Dès que l'on n'est pas obligé d'éloigner de soi les inférieurs qui se reposent de leur sort sur notre bienveillance, ou d'exciter la pitié des supérieurs par un changement remarquable dans sa manière d'exister, l'on est à l'abri de toutes les peines que peut faire éprouver la diminution de la fortune. D'ailleurs, je ne crois pas que je me fixe à Paris. Depuis près d'un an que j'y habite, je n'y ai pas formé une seule relation qui puisse me faire oublier les amis de mon enfance. Ces véritables amis sont gravés dans mon cœur avec des traits si chers et si sacrés que toutes les nouvelles connaissances que je fais laissent à peine des traces à côté de ses profonds souvenirs. Je n'aime ici que votre mère. Sans elle, je ne serais point venue à Paris, et je n'aspire qu'à la ramener en Languedoc avec moi. J'ai pris, depuis que j'existe, l'habitude d'être aimée, et les louanges qu'on veut bien m'accorder ici laissent au fond de mon cœur un sentiment de froideur et d'indifférence qu'aucune jouissance de l'amour-propre n'a pu changer entièrement. Je crois donc que, malgré mon goût pour la société de Paris, je retirerai ma vie et mon cœur de ce tumulte, où l'on finit toujours par recevoir quelques blessures qui vous font mal ensuite dans la retraite. J'entre dans ces détails avec vous, ma chère cousine, pour que vous soyez bien convaincu que j'ai beaucoup plus de fortune qu'il n'en faut pour la vie que je veux mener. C'est à regret que je me condamne à rechercher tous les arguments imaginables pour vous faire accepter un don qui devrait s'offrir et se recevoir avec le même mouvement. Mais les différences de caractère et d'opinion qui peuvent exister entre nous m'ont fait craindre de rencontrer quelques obstacles au projet que nous avons arrêté, votre mère et moi. J'ai donc voulu que vous suciez tout ce qui peut vous tranquilliser sur un service auquel vous paraissiez attacher beaucoup trop d'importance. Il n'entraîne point avec lui une reconnaissance qui doive vous imposer de la gêne. Et si tout ce que je viens de vous dire ne suffit pas pour vous le prouver, je vous répéterai que mon amitié pour votre mère est si vive, si dévouée, qu'il vous suffirait d'être sa fille pour que je fisse pour vous, quand même je ne vous connaîtrai pas, tout ce qui est en mon pouvoir. Mais c'est assez parlé de ce service. Assurément, je ne vous en aurais pas entretenu si longtemps si je n'avais aperçu que vous aviez une répugnance secrète pour la proposition que je vous faisais. Il se peut aussi que vous soyez blessé des conditions que Madame de Mondeville a mises à votre mariage avec son fils. N'oubliez pas cependant, ma chère Mathilde, qu'elle ne vous a connu que pendant votre enfance, puisqu'elle n'a pas quitté l'Espagne depuis 10 ans. Et songez surtout que son fils ne vous a jamais vu. Madame de Mondeville aime votre mère et désire s'allier avec votre famille. Mais vous savez combien elle met d'importance à tout ce qui peut ajouter à la considération des siens. Elle veut que sa belle-fille ait de la fortune comme un moyen d'établir une distance de plus entre son fils et les autres hommes. Elle a de la générosité et de l'élévation, mais aussi de la hauteur et de l'orgueil. Ses manières, dit-on, sont très simples et son caractère très arrogant. Née en Espagne, d'une famille attachée aux mœurs antiques de ce pays, elle a vécu longtemps en France avec son mari, et elle y a appris l'art de revêtir ses défauts de formes aimables qui subjuguent ceux qui l'entourent. Tout ce que l'on raconte de Léonce de Mondeville me persuade que vous serez parfaitement heureuse avec lui. Mais je crois que Madame de Mondeville, malgré les inconvénients de son caractère, a beaucoup d'ascendant sur son fils. J'ai souvent remarqué que c'est par ses défauts que l'on gouverne ceux dont on est aimé. Ils veulent les ménager, ils craignent de les irriter, ils finissent par s'y soumettre. Tandis que les qualités dont le principal avantage est de rendre la vie facile sont souvent oubliées et ne donnent point de pouvoir sur les autres. Ces diverses réflexions ne doivent en rien vous détourner du mariage le plus brillant et le plus avantageux. Mais elles ont pour but de vous faire sentir la nécessité de remplir toutes les conditions que demande ou que désire Madame de Mondeville. Il ne faut pas que vous entriez dans une telle famille avec une infériorité quelconque. Il faut que Madame de Mondeville soit convaincue qu'elle a fait pour son fils un mariage très convenable, afin que tous les égards que vous aurez pour elle la flattent davantage encore. Plus vous serez indépendante par votre fortune, plus il vous sera doux d'être asservie par vos sentiments et vos devoirs. Oubliez donc, ma chère Mathilde, les petites altercations que nous avons eues quelquefois ensemble, et réunissons nos cœurs par les affections qui nous sont communes, par l'attachement que nous ressentons toutes les deux pour votre aimable mère. Delphine d'Albémar. Lettre 2. Réponse de Mathilde de Vernon à Madame d'Albémar, Paris, ce 14 avril 1790. Puisque vous croyez, ma chère cousine, qu'il est de votre délicatesse de faire jouir les parents de Monsieur d'Albémar d'une partie de la fortune qu'il vous a laissée, je consens, avec l'autorisation de ma mère, à la donation que vous me proposez. Et je considère avec raison cette conduite de votre part comme satisfaisant à beaucoup plus que l'équité, et vous donnant des droits à ma reconnaissance. Je m'engage donc à tout ce que la religion et la vertu exigent d'une personne qui a contracté de son libre aveu l'obligation qui me lie à vous. Ma mère désire que le service que vous me rendez reste secret entre nous. Elle croit que la fierté de Madame de Mondeville pourrait être blessée en apprenant que c'est par un bienfait que sa belle-fille est dotée. Je vous dis ce que pense ma mère, mais je serai toujours prête à publier ce que vous faites pour moi si vous le désirez. Dû la publicité de vos bienfaits, m'humilier selon l'opinion du monde, elle me relèverait à mes propres yeux. Tel est l'esprit de la religion sainte que je professe. Je sais que ce langage vous a paru quelquefois ridicule, et que malgré la douceur de votre caractère, douceur à laquelle je rends justice, vous n'avez pu me cacher que vous ne partagiez pas mes opinions sur tout ce qui tient à l'observance de la religion catholique. Je m'en afflige pour vous, ma chère cousine, et plus vous resserrez par votre excellente conduite les biens qui nous attachent l'une à l'autre, plus je voudrais qu'il me fût possible de vous convaincre que vous prenez une mauvaise route, soit pour votre bonheur intérieur, soit pour votre considération dans le monde. Vos opinions en tout genre sont singulièrement indépendantes. Vous vous croyez, et avec raison, un esprit très remarquable. Cependant, qu'est-ce que cet esprit, ma cousine, pour diriger sagement non seulement les hommes en général, mais les femmes en particulier? Vous êtes charmante, on vous le répète sans cesse, mais combien vos succès ne vous font-ils pas d'ennemis? Vous êtes jeune, vous aurez sans doute le désir de vous remarier. Pensez-vous qu'un homme sage puisse être empressé de s'unir à une personne qui voit tout par ses propres lumières, soumet sa conduite à ses propres idées et dédaigne souvent les maximes reçues? Je sais que vous avez une simplicité tout à fait aimable dans le caractère, que vous ne cherchez point à dominer, que vous n'avez de hardiesse ni dans les manières ni dans les discours. Mais dans le fond, et vous en convenez vous-même, ce n'est point à la foi catholique, ce n'est point aux hommes respectables chargés de nous l'enseigner que vous soumettez votre conduite. C'est à votre manière de sentir et de concevoir les idées religieuses. Ma cousine, où en serions-nous si toutes les femmes prenaient ainsi pour guide ce qu'elles appelleraient leur lumière? Croyez-moi, ce n'est pas seulement par les fidèles qu'une telle indépendance est blâmée. Les hommes, qui sont les plus affranchis des vérités traitées de préjugés dans la langue actuelle, veulent que leurs femmes ne se dégagent d'aucun lien. Ils sont bien aises qu'elles soient dévotes et se croient plus sûres ainsi qu'elles respecteront et leurs devoirs et jusqu'aux moindres nuances de ces devoirs. Je ne fais rien pour l'opinion, vous le savez. J'ai de bonne foi les sentiments religieux que je professe. Si mon caractère a quelquefois de la raideur, il a toujours de la vérité. Mais si j'étais capable de concevoir l'hypocrisie, je crois tellement essentiel pour une femme de ménager en tout point l'opinion que je lui conseillerais de ne rien braver en aucun genre. Ni superstition, pour me conformer à votre langage, ni convenance, quelque puérile qu'elle puisse être. Combien, toutefois, il vaut mieux n'avoir point à penser au suffrage du monde et se trouver disposé, par la religion même, à tous les sacrifices que l'opinion peut exiger de nous. Si vous pouviez consentir à voir l'évêque de L, qui, malgré tous les maux que nous éprouvons depuis 10 mois, est resté en France. Je suis sûre qu'il prendrait de l'ascendant sur vous. Mon zèle est peut-être indiscret. La religion ne nous oblige point à nous mêler de la conduite des autres. Mais la reconnaissance que je vais vous devoir m'inspire un nouveau désir de vous appeler au salut. Vous le dites vous-même, vous n'êtes pas heureuse. C'est un avertissement du ciel. Pourquoi n'êtes-vous pas heureuse? Vous êtes jeune, riche, jolie. Vous avez un esprit dont la supériorité et le charme ne sont pas contestés. Vous êtes bonne et généreuse. Savez-vous ce qui vous afflige? C'est l'incertitude de votre croyance. Et s'il faut tout vous dire, c'est que vous sentez aussi que cette indépendance d'opinion et de conduite, qui donne à votre conversation peut-être plus de grâce et de piquant, commence déjà à faire dire du mal de vous, et nuira sûrement tôt ou tard à votre existence dans le monde. Ne prenez pas mal les avis que je vous donne. Ils tiennent, je vous l'atteste, à mon attachement pour vous. Vous savez que je ne suis point jalouse. Vous m'avez rendu plusieurs fois cette justice. Je ne prétends point au succès du monde. Je n'ai pas l'esprit qu'il faudrait pour les obtenir, et je me ferai scrupule de m'en occuper. Je vous parle donc en conscience, sans aucun autre motif que ceux qui doivent inspirer une âme chrétienne. J'aurais fait pour vous bien plus que vous ne faites pour moi si j'avais pu vous engager à sacrifier vos opinions particulières pour vous soumettre aux décisions de l'Église. Adieu, ma chère cousine. Je ne vous plais pas, je ne dois pas vous plaire. Cependant, vous êtes certaine, j'en suis sûre, que je ne manquerai jamais au sentiment que vous méritez. Mathilde de Vernon. Lettre 3. Delphine à Mathilde. J'ai de la peine à contenir, ma cousine, le sentiment que votre lettre me fait éprouver. Je ne devrais pas y céder, puisque j'attends de vous une marque précieuse d'amitié. Mais il m'est impossible de ne pas m'expliquer une fois franchement avec vous. Je veux mettre un terme aux insinuations continuelles que vous me faites sur mes opinions et sur mes goûts. Vous estimez la vérité, vous savez l'entendre. J'espère donc que vous ne serez point blessé des expressions vives qui pourront m'échapper dans ma propre justification. D'abord, vous attribuez à la délicatesse le don que j'ai le bonheur de vous offrir, et c'est l'amitié seule qui en est la cause. S'il était vrai que je vous dusse de quelque manière une partie de ma fortune, parce que votre mère est parente de M. d'Albémare, j'aurais eu tort de la conserver jusqu'à présent. La délicatesse est pour les âmes élevées un devoir plus impérieux encore que la justice. Elle s'inquiète bien plus des actions qui dépendent d'elle seule que de celles qui sont soumises à la puissance des lois. Mais pouvez-vous ignorer quelle malheureuse prévention éloignait M. d'Albémare de votre mère? C'est le seul sujet de discussion que nous ayons jamais eu ensemble. Cette prévention était telle que j'ai eu beaucoup de peine à éviter l'engagement qu'il voulait me faire prendre de rompre entièrement avec elle. Connaissant les dispositions de M. d'Albémare comme je le fais, si je puis me permettre de disposer de sa fortune en votre faveur, c'est parce qu'il m'a ordonné de la considérer comme appartenant à moi seule. Mais pourquoi donc éprouvez-vous le besoin de diminuer le faible mérite du service que je veux vous rendre? Est-ce parce que vous êtes effrayé de tous les devoirs que vous croyez attachés à la reconnaissance? Pourquoi mettez-vous tant d'importance à une action qui ne peut être comptée que comme l'expression de l'amitié que j'éprouve? Je n'ai qu'un but, je n'ai qu'un désir, c'est d'être aimé des personnes avec qui je vis. Il faut que vous vous sentiez tout à fait incapable de m'accorder ce que je demande, puisque vous craignez tant de me rien devoir. Mais encore une fois, soyez tranquille, votre mère peut tout pour mon bonheur. Son esprit plein de grâce, sa douceur et sa gaieté répandent tant de charme sur ma vie. Quelquefois, l'inégalité, la froideur de ses manières m'inquiètent. Je voudrais qu'elle répondît sans cesse à la vivacité de mon attachement pour elle. Ne suis-je donc pas trop heureuse si je trouve une occasion de lui inspirer un sentiment de plus pour moi? Ma cousine, je ne cherche point à me faire valoir auprès de vous. Vous ne me devez rien. Je serai mille fois récompensée de mon zèle pour vos intérêts si votre mère me témoigne plus souvent cette amitié tendre qui calme et remplit mon cœur. Maintenant, passons aux reproches ou aux conseils que vous croyez nécessaire de m'adresser. Je n'ai pas les mêmes opinions que vous, mais je ne pense pas, je vous l'avoue, que ma considération en souffre le moins du monde. Si je songeais à me remarier, j'ose croire que mon cœur est un assez noble présent pour n'être pas dédaigné par celui qui m'en paraît très digne. Vous avez cru, dites-vous, démêlé de ma tristesse dans ma lettre. Vous vous êtes trompé. Je n'ai dans ce moment aucun sujet de peine. Mais le bonheur même des âmes sensibles n'est jamais sans quelque mélange de mélancolie. Et comment n'éprouverais-je pas cette disposition, moi qui ai perdu dans M. d'Albémare un ami si bon et si tendre? Il n'a pris le nom de mon époux lorsque j'avais atteint ma 16e année, que pour m'assurer sa fortune. Il mettait dans ses relations avec moi tant de bonté protectrice et de galanterie délicate que son sentiment pour moi réunissait tout ce qu'il y a d'aimable dans les affections d'un père et dans les soins d'un jeune homme. M. d'Albémare, uniquement occupé d'assurer le bonheur du reste de ma vie, dont son âge ne lui permettait pas d'être le témoin, m'avait inspiré cette confiance si douce à ressentir, cette confiance qui remet pour ainsi dire à un autre la responsabilité de notre sort et nous dispense de nous inquiéter de nous-mêmes. Je le regretterai toujours, et les souvenirs de mon enfance et les premiers jours de ma jeunesse ne peuvent jamais cesser de m'attendrir. Mais quel autre chagrin pourrais-je éprouver en ce moment? Qu'ai-je à redouter du monde? Je n'y porte que des sentiments doux et bienveillants. Si j'avais été dépourvu de toute espèce d'agrément, peut-être n'aurais-je pu me défendre d'un peu d'aigreur contre les femmes assez heureuses pour plaire. Mais je n'entends retentir autour de moi que des paroles flatteuses. Ma position me permet de rendre quelques services et ne m'oblige jamais à en demander. Je n'ai que des rapports de choix avec les personnes qui m'entourent. Je ne recherche que celles que j'aime. Je ne dis aucun mal des autres. Pourquoi donc voudrait-on affliger une créature aussi inoffensive que moi, et dont l'esprit, s'il est vrai que l'éducation que j'ai reçue m'ait donné cet avantage, dont l'esprit, dis-je, n'a d'autre mobile que le désir d'être agréable à ceux que je vois. Vous m'accusez de n'être pas aussi bonne catholique que vous, et de n'avoir pas assez de soumission pour les convenances arbitraires de la société. D'abord, loin de blâmer votre dévotion, ma chère cousine, n'en ai-je pas toujours parlé avec respect? Je sais qu'elle est sincère, et quoiqu'elle n'ait pas encore entièrement adouci ce que vous avez peut-être de trop âpre dans le caractère, je crois qu'elle contribue à votre bonheur, et je ne me permettrai jamais de l'attaquer, ni par des raisonnements, ni par des plaisanteries. Mais j'ai reçu une éducation tout à fait différente de la vôtre. Mon respectable époux, en revenant de la guerre d'Amérique, s'était retiré dans la solitude et s'y livrait à l'examen de toutes les questions morales que la réflexion peut approfondir. Il croyait en Dieu, il espérait l'immortalité de l'âme, et la vertu fondée sur la bonté était son culte envers l'être suprême. Orpheline dès mon enfance, je n'ai compris des idées religieuses que ce que M. d'Albémar m'en a enseigné. Et comme il remplissait tous les devoirs de la justice et de la générosité, j'ai cru que ces principes devaient suffire à tous les cœurs. M. d'Albémar connaissait peu le monde, je commence à le croire. Il n'examinait jamais dans les actions que leur rapport avec ce qui est bien en soi, et ne songeait point à l'impression que sa conduite pouvait produire sur les autres. Si c'est être philosophe que penser ainsi, je vous avoue que je pourrais me croire des droits à ce titre, car je suis absolument à cet égard de l'opinion de M. d'Albémar. Mais si vous entendiez par philosophie la plus légère indifférence pour les vertus pures et délicates de notre sexe, si vous entendiez même par philosophie la force qui rend inaccessible aux peines de la vie, certes, je n'aurais mérité ni cette injure ni cette louange. Et vous savez bien que je suis une femme avec les qualités et les défauts que cette destinée faible et dépendante peut entraîner. J'entre dans le monde avec un caractère bon et vrai, de l'esprit, de la jeunesse et de la fortune. Pourquoi ces dons de la Providence ne me rendraient-ils pas heureuse? Pourquoi me tourmenterais-je des opinions que je n'ai pas, des convenances que j'ignore? La morale et la religion du cœur ont servi d'appui à des hommes qui avaient à parcourir une carrière bien plus difficile que la mienne. Ces guides me suffiront. Quant à vous, ma chère cousine, souffrez que je vous le dise. Vous aviez peut-être besoin d'une règle plus rigoureuse pour réprimer un caractère moins doux. Mais ne pouvons-nous donc nous aimer, malgré la différence de nos goûts et de nos opinions? Vous savez combien je considère vos vertus. Ce sera pour moi un vif plaisir de contribuer à rendre votre destinée heureuse. Mais laissez chacun en paix chercher au fond de son cœur le soutien qui convient le mieux à son caractère et à sa conscience. Imitez votre mère, qui n'a jamais de discussion avec vous, quoique vos idées diffèrent souvent des siennes. Nous aimons toutes deux un être bienfaisant vers lequel nos âmes s'élèvent. C'est assez de ce rapport. C'est assez de ce lien qui réunit toutes les âmes sensibles dans une même pensée, la plus grande et la plus fraternelle de toutes. Je retournerai dans 2 jours à Paris. Nous ne parlerons plus du sujet de nos lettres, et vous m'accorderez le bonheur de vous être utile, sans le troubler par des réflexions qui blessent toujours un peu. Quelques efforts qu'on fasse sur soi-même pour ne pas s'en offenser. Je vous embrasse, ma chère cousine, et je vous assure qu'à la fin de ma lettre, je ne sens plus la moindre trace de la disposition pénible qui m'avait inspiré les premières lignes. Delphine d'Albémar. Lettre 4. Delphine d'Albémar à Madame de Vernon. Belle Rive, ce 16 avril 1790. Ma chère tante, ma chère amie, pourquoi m'avez-vous mise en correspondance avec ma cousine sur un sujet qui ne devait être traité qu'avec vous? Vous savez que Mathilde et moi, nous ne nous convenons pas toujours, et je m'entends si bien avec vous. Quand j'ai pu vous être utile, vous avez si noblement accepté le dévouement de mon cœur, vous l'avez récompensé par un sentiment qui me rend la vie si douce. Ne voulez-vous donc plus que ce soit à vous seul que je m'adresse? Si cependant je vous avais déplu par ma réponse à Mathilde, si vous ne me jugiez plus digne d'assurer le bonheur de votre fille? Mais non, vous connaissez la vivacité de mes premiers mouvements. Vous me les pardonnez, vous qui conservez toujours sur vous-même cet empire qui sert au bonheur de vos amis plus encore qu'au vôtre. Je n'ai rien à redouter de votre caractère généreux et fier. Il reçoit les services comme il les rendrait, avec simplicité. Cependant, rassurez-moi avant que je vous revoie. Je sais bien que vous n'aimez pas à écrire, mais il me faut un mot qui me dise que vous persistez dans la permission que vous m'avez accordée. Je le répète encore, vous n'affligerez pas profondément votre ami. Je serai la première personne du monde à qui vous auriez fait de la peine. Si j'ai eu tort, c'est alors surtout que, prévoyant les reproches que je me ferai, vous ne voudrez pas que ce tort ait des suites amères. J'attends quelques lignes de vous, ma chère Sophie, avec une inquiétude que je n'avais point encore ressentie. Lettre 5. Madame de Vernon à Delphine. Paris, ce 17 avril. Vous êtes des enfants, Mathilde et vous. Ce n'est pas ainsi qu'il faut traiter des objets sérieux. Nous en causerons ensemble, mais n'ayez jamais d'inquiétude, ma chère Delphine, quand ce que vous désirez dépend de moi. Sophie de Vernon. Lettre 6. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Paris, ce 19. Une légère altercation qui s'était élevée entre Mathilde et moi il y a quelques jours m'avait assez inquiétée, ma chère sœur. Je vous envoie la copie de nos lettres pour que vous en soyez juge. Mais combien je voudrais que vous fussiez près de moi. Je cherche à me rappeler sans cesse ce que vous m'avez dit. Il me semblait autrefois que votre excellent frère, dans nos entretiens, m'avait donné des règles de conduite qui devaient me guider dans toutes les situations de la vie. Et maintenant je suis troublée par les inquiétudes qui me sont personnelles, comme si les idées générales que j'ai conçues ne suffisaient point pour m'éclairer sur les circonstances particulières. Néanmoins, ma destinée est simple, et je n'éprouve et je n'éprouverai jamais, j'espère, aucun sentiment qui puisse l'agiter. Madame de Vernon, que vous n'aimez pas, quoiqu'elle vous aime, Madame de Vernon est certainement la personne la plus spirituelle, la plus aimable, la plus éclairée dont je puisse me faire l'idée. Cependant, il m'est impossible de discuter avec elle jusqu'au fond de mes pensées et de mes sentiments. D'abord, elle ne se plaît pas beaucoup dans les conversations prolongées. Mais ce qui surtout abrège les développements dans les entretiens avec elle, c'est que son esprit va toujours droit au résultat et semble dédaigner tout le reste. Ce n'est ni la moralité des actions, ni leur influence sur le bien-être de l'âme qu'elle a profondément étudiée, mais les conséquences et les effets de ses actions. Et quoiqu'elle soit elle-même une personne douée des plus excellentes qualités, on dirait qu'elle compte pour tout le succès et pour très peu le principe de la conduite des hommes. Cette sorte d'esprit la rend un meilleur juge des événements de la vie que des peines secrètes. Il me reste donc toujours dans le cœur quelques sentiments que je ne lui ai pas exprimés, quelques sentiments que je retiens comme inutiles à lui dire et dont j'éprouve pourtant la puissance en moi-même. Il n'existe aucune borne à ma confiance en elle, mais, sans que j'y réfléchisse, je me trouve naturellement disposée à ne lui dire que ce qui peut l'intéresser. Je renvoie toujours au lendemain pour lui parler des pensées qui m'occupent mais qui n'ont point d'analogie avec sa manière de voir et de sentir. Mon désir de lui plaire est mêlé d'une sorte d'inquiétude qui fixe mon attention sur les moyens de lui être agréable aimait dans mon amitié pour elle, encore plus, pour ainsi dire, de coquetterie que de confiance. Mon âme s'ouvrirait entièrement avec vous, ma chère Louise. Vous l'avez formée en me tenant lieu de mère. Vous avez toujours été mon amie. Je conserve pour vous cette douce confiance du premier âge de la vie, de cet âge où l'on croit avoir tout fait pour ceux qu'on aime en leur montrant ses sentiments et en leur développant ses pensées. Dites-moi donc, ma chère sœur, quel est cet obstacle qui s'oppose à ce que vous quittiez votre couvent pour vous établir à Paris avec moi? Vous m'avez fait un secret jusqu'à présent de vos motifs. Supportez-vous l'idée qu'il existe un secret entre nous? Je vous ai promis, en vous quittant, de vous écrire mon journal tous les soirs. Vous vouliez, disiez-vous, veiller sur mes impressions. Oui, vous serez mon ange tutélaire. Vous conserverez dans mon âme les vertus que vous avez su m'inspirer. Mais ne serions-nous pas bien plus heureux si nous étions réunis? Et nos lettres peuvent-elles jamais suppléer à nos entretiens? Après avoir reçu le billet de Madame de Vernon, je partis le jour même pour l'aller voir. Je quittai Bellerive à 5 heures du soir et je fus chez elle à 8. Elle était dans son cabinet avec sa fille. À mon arrivée, elle fit signe à Mathilde de s'éloigner. J'étais contente et néanmoins embarrassée de me trouver seule avec elle. J'ai éprouvé souvent une sorte de gêne auprès de Madame de Vernon, jusqu'à ce que la gaieté de son esprit m'ait fait oublier ce qu'il y a de réservé et de contenu dans ses manières. Je ne sais si c'est un défaut en elle, mais ce défaut même sert à donner plus de prix au témoignage de son affection. « Eh bien, me dit-elle en souriant, Mathilde a donc voulu vous convertir ?»« Je ne puis vous dire, ma chère tante, lui répondis-je, combien sa lettre m'a fait de peine. Elle a provoqué ma réponse, et je m'en suis bientôt repentie. J'avais une frayeur mortelle de vous avoir déplu. »« En vérité, je l'ai à peine lue, reprit Madame de Vernon. J'y ai reconnu votre bon cœur, votre mauvaise tête. Tout ce qui fait de vous une personne charmante, je n'ai rien remarqué que cela. Quant au fond de l'affaire, l'homme chargé de dresser le contrat y insérera les conditions que vous voulez bien offrir. Mais il faut que vous permettiez qu'on mette dans l'article que c'est une donation faite en dédommagement de l'héritage de M. d'Albémare. Si Mme de Mondeville croyait que c'est par une simple générosité de votre part que ma fille est dotée, son orgueil en souffrirait tellement qu'elle romprait le mariage. J'éprouvai, je l'avoue, une sorte de répugnance pour cette proposition, et je voulais la combattre. Mais Madame de Vernon m'interrompit et me dit « Madame de Mondeville ne sait pas combien on peut être fier d'être comblé des bienfaits d'une amie telle que vous. Vous m'avez déjà retiré une fois de l'abîme où m'avait jeté un négociant infidèle. Vous allez maintenant marier ma fille, le seul objet de mes sollicitudes. Et il faut que je condamne ma reconnaissance au silence le plus absolu. Tel est le caractère de Madame de Mondeville. Si vous exigiez que le service que vous me rendez fût connu, je serais forcée de le refuser, car il deviendrait inutile. Mais il vous suffit, n'est-il pas vrai, ma chère Delphine, du sentiment que j'éprouve, de ce sentiment qui me permet de vous tout devoir, parce que mon cœur est certain de tout acquitter. » Ces derniers mots furent prononcés avec cette grâce enchanteresse qui n'appartient qu'à Madame de Vernon. Elle n'avait pas l'air de douter de mon consentement. Et lui en faire naître l'idée, c'était refroidir tous ses sentiments. Elle s'y abandonne si rarement qu'on craint encore plus d'en troubler les témoignages. Les motifs de ma répugnance étaient bien purs, mais j'avais une sorte de honte, néanmoins, d'insister pour que mon nom fût proclamé à côté du service que je rendais. et je fus irrésistiblement entraîné à céder au désir de Madame de Vernon. Je lui dis cependant, « J'ai quelques regrets de me servir du nom de M. d'Albémar dans une circonstance si opposée à ses intentions. Mais s'il était témoin du culte que vous rendez à ses vertus, s'il vous entendait parler de lui comme vous en parlez avec moi, peut-être... » « Sans doute, » interrompit Madame de Vernon, et ce mot finit la conversation sur ce sujet. Un moment de silence se s'ensuivit, mais bientôt, reprenant sa grâce et sa gaieté naturelle, Madame de Vernon dit « À propos, dois-je vous envoyer Monsieur l'évêque de L pour vous confesser à lui, comme Mathilde vous le propose ?»« Je vous en conjure, » lui répondis-je. « Dites-moi donc, ma chère tante, pourquoi vous avez donné à Mathilde une éducation presque superstitieuse et qui a si peu de rapport avec l'étendue de votre esprit et l'indépendance de vos opinions. » Elle redevint sérieuse un moment et me dit « Vous m'avez fait 20 fois cette question, je ne voulais pas y répondre, mais je vous dois tous les secrets de mon cœur. » « Vous savez, » continuait-elle, « tout ce que j'ai eu à souffrir de M. de Vernon, proche parent de votre mari. Il était impossible de lui moins ressembler. Sa fortune et ma pauvreté furent les seuls motifs qui décidèrent notre mariage. J'en fus longtemps très malheureuse. À la fin, cependant, je parvins à m'aguerrir contre les défauts de M. de Vernon. J'adoucis un peu sa rudesse. Il existe une manière de prendre tous les caractères du monde, et les femmes doivent la trouver si elles veulent vivre en paix sur cette terre, où leur sort est entièrement dans la dépendance des hommes. Je n'avais pu néanmoins obtenir que ma fille me fût confiée, et son père la dirigeait seule. Il mourut qu'elle avait 11 ans, et pouvant alors m'occuper uniquement d'elle, je remarquai qu'elle avait dans son caractère une singulière âpreté, assez peu de sensibilité et un esprit plus opiniâtre qu'étendu. Je reconnus bientôt que mes leçons ne suffisaient pas pour corriger de tels défauts. J'ai de l'indolence dans le caractère, inconvénient qui est le résultat naturel de l'habitude de la résignation. J'ai peu d'autorité dans ma manière de m'exprimer, quoique ma décision intérieure soit très positive. Je mets d'ailleurs trop peu d'importance à la plupart des intérêts de la vie pour avoir le sérieux nécessaire de l'enseignement. Je me jugeais donc comme je jugerais un autre. Vous savez que cela m'est facile. Et je résolus de confier à Monseigneur l'évêque de L l'éducation de ma fille. Après y avoir bien réfléchi, je crus que la religion, et une religion positive, était le seul frein assez fort pour dompter le caractère de Mathilde. Ce caractère aurait pu contribuer utilement à l'avancement d'un homme. Il présentait l'idée d'une âme ferme et capable de servir d'appui. Mais les femmes devant toujours plier ne peuvent trouver dans les défauts et dans les qualités d'un même caractère fort que des occasions de douleur. Mon projet a réussi. La religion, sans avoir entièrement changé le caractère de ma fille, lui a ôté ses inconvénients les plus graves. Et comme le sentiment du devoir se mêle à toutes ses résolutions, et presque à toutes ses paroles, on n'aperçoit plus des défauts qu'elle avait naturellement que par un peu de froideur et de sécheresse dans les relations de la vie, jamais par aucun tort réel. Son esprit est assez borné, mais comme elle respecte tous les préjugés et se soumet à toutes les convenances, elle ne sera jamais exposée aux critiques du monde. Sa beauté, qui est parfaite, ne lui fera courir aucun risque, car ses principes sont d'une inébranlable austérité. Elle est disposée au plus grand sacrifice ainsi qu'au plus petit, et la raideur de son caractère lui fait aimer la gêne comme un autre se plairait dans l'abandon. C'eût été bien dommage, ma chère Delphine, qu'une personne aussi aimable, aussi spirituelle que vous, se fût imposée un joug qui le privait de mille charmes. Mais réfléchissez à ce qu'est ma fille, et vous verrez que le parti que j'ai pris était le seul qui put la garantir de tous les malheurs que lui préparait sa triste conformité avec son père. Je ne parlerai à personne, ma chère Delphine, avec la confiance que je viens de vous témoigner. Mais je n'ai pas voulu que l'amie de mon cœur, celle qui veut assurer le bonheur de Mathilde, ignora plus longtemps les motifs qui m'ont déterminée dans la plus importante de mes résolutions, dans celle qui concerne l'éducation de ma fille. Vous ne pouvez jamais parler sans convaincre, ma chère tante, lui répondis-je. Mais vous-même, cependant, ne pouviez-vous pas guider votre fille? Vos opinions ne sont-elles pas en tout conformes à celles que la raison? Oh, mes opinions, répondit-elle, en souriant et en m'interrompant, personne ne les connaît. Et comme elles n'influencent point sur mes sentiments, ma chère Delphine, vous n'avez pas besoin de les savoir. En achevant ces mots, elle se leva, me prit par la main et me conduisit dans le salon où plusieurs personnes étaient déjà rassemblées. Elle entra et leur fit des excuses avec cette grâce inimitable que vous-même lui reconnaissez. Quoiqu'elle ait au moins 40 ans, elle paraît encore charmante, même au milieu des jeunes femmes. Sa pâleur, ses traits un peu abattus, rappellent la longueur de la maladie et non la décadence des années. Sa manière de se mettre toujours négligée est d'accord avec cette impression. On se dit qu'elle serait parfaitement jolie si un jour elle se portait mieux, si elle voulait se parer comme les autres. Ce jour n'arrive jamais, mais on y croit, et c'est assez pour que l'imagination ajoute encore à l'effet naturel de ses agréments. Dans un des coins de la chambre était Madame Dumarsais. Vous ai-je dit que c'est une femme qui ne peut me supporter, quoique je n'ai jamais eu et ne veuille jamais avoir le moindre tort avec elle. Elle a pris dès mon arrivée parti contre la bienveillance qu'on m'a témoignée et l'a considérée comme un affront qui lui serait personnel. J'ai pendant quelque temps essayé de l'adoucir, mais quand j'ai vu qu'elle avait contracté aux yeux du monde l'engagement de me détester et que, ne pouvant se faire une existence par ses amis, elle espérait s'en faire une par ses haines, j'ai résolu de dédaigner ce qu'il y avait de réel dans son aversion pour moi. Elle prétend, ne sachant trop de quoi m'accuser, que j'aime et que j'approuve beaucoup trop la Révolution de France. Je la laisse dire, elle a 50 ans et nulle bonté dans le caractère. C'est assez de chagrin pour lui permettre beaucoup d'humeur. Derrière elle était Monsieur de Fierville, son fidèle adorateur, malgré son âge avancé. Il a plus d'esprit qu'elle et moins de caractère, ce qui fait qu'elle le domine entièrement. Il se plaît quelquefois à causer avec moi, mais comme par complaisance pour Madame Dumarsais, il me critique souvent quand je n'y suis pas, il fait sans cesse des réserves dans les compliments qu'il m'adresse pour se mettre, s'il est possible, un peu d'accord avec lui-même. Je le laisse s'agiter dans ses petits remords parce que je n'aime de lui que son esprit et qu'il ne peut m'empêcher d'en jouir quand il me parle. Au milieu de la société, Mathilde ne songe pas un instant à s'amuser. Elle exerce toujours un devoir dans les actions les plus indifférentes de sa vie. Elle se place constamment à côté des personnes les moins aimables, arrange les parties, prépare le thé, sonne pour qu'on entretienne le feu. Enfin, s'occupe d'un salon comme d'un ménage, sans donner un instant à l'entraînement de la conversation. On pourrait admirer ce besoin continuel de tout changer en devoir, s'il exigeait d'elle le sacrifice de ses goûts. Mais elle se plaît réellement dans cette existence toute méthodique et blâme au fond de son cœur ceux qui ne l'imitent pas. Madame de Vernon aime beaucoup à jouer. Quoiqu'elle pût être très distinguée dans la conversation, elle l'évite. On dirait qu'elle n'aime à développer ni ce qu'elle sent ni ce qu'elle pense. Ce goût du jeu et trop de prodigalité dans sa dépense sont les seuls défauts que je lui connaisse. Elle choisit pour sa partie, hier au soir, Madame Dumarsais et Monsieur de Fierville. Je lui en fis quelques reproches tout bas, parce qu'elle m'avait dit plusieurs fois assez de mal de tous les deux. La critique ou la louange, me répondit-elle, sont un amusement de l'esprit. Mais ménager les hommes est nécessaire pour vivre avec eux. Estimer ou mépriser, repris-je avec chaleur, est un besoin de l'âme. C'est une leçon, c'est un exemple utile à donner. Vous avez raison, me dit-elle avec précipitation, vous avez raison sous le rapport de la morale. Ce que je vous disais ne faisait allusion qu'aux intérêts du monde. Elle me serra la main en s'éloignant, avec une expression parfaitement aimable. Je restai à causer auprès de la cheminée, avec plusieurs hommes dont la conversation, surtout dans ce moment, inspire le plus vif intérêt à tous les esprits capables de réflexion et d'enthousiasme. Je me reproche quelquefois de m'y livrer trop au charme de cette conversation si piquante. C'est peut-être blesser un peu les convenances que se mêler ainsi aux entretiens les plus importants. Mais quand Madame de Vernon et les dames de sa société sont établies au jeu, je me trouve presque seule avec Mathilde qui ne dit pas un mot. Et l'empressement que me témoignent les hommes distingués m'entraîne à les écouter et à leur répondre. Cependant, peut-être est-il vrai que je me livre souvent avec trop de chaleur à l'esprit que je peux avoir. Je ne sais pas résister assez au succès que j'obtiens en société et qui doivent quelquefois déplaire aux autres femmes. Combien j'aurais besoin d'un guide. Pourquoi suis-je seule ici? Je finis cette lettre, ma chère sœur, en vous répétant ma prière. Venez près de moi. N'abandonnez pas votre Delphine dans un monde si nouveau pour elle. Il m'inspire une sorte de crainte vague que ne peut dissiper le plaisir même que j'y trouve.